peut-être organiser ça, toi, puis moi, une compétition de ping-pong.
Ouais, je serais nulle. Je suis tellement pas bonne à ça, là.
T'es pas bonne?
Ah, pour vrai, après 3-4 balles, souvent, je m'écrase sous la pression.
Il y en a qui sont capables de faire. De faire spinner la balle sur elle. Ouais, donner un effet, ce qui fait en sorte qu'elle arrive super lentement sur la table, puis après ça, repart à une vitesse.
Mais tu me donnes le goût de pratiquer, tu sais, tu me donnes le goût d'être très déterminé et discipliné.
Ouais.
sur le sport.
J'avais eu comme cadeau de fête une location d'un appareil virtuel. Là.
OK.
C'est un casque de réalité virtuelle. Okay. Puis pendant une soirée de temps, j'avais joué contre un Chinois au ping-pong. T'es dans une grosse salle de réalité virtuelle. À ta gauche, c'était tout fenestré comme ici, mais avec peut-être une centaine de fenêtres. Puis c'était des montagnes qui étaient derrière. Puis t'avais une ambiance de bord. Puis t'entendais des gens jaser autour de la table à ping-pong. C'était malade. Puis j'avais passé la soirée à jouer contre lui. Puis ça a été vraiment cool. Là.
Mais honnêtement, t'as dû parfaire tes skills.
Mais ils sont très, 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 très forts. Parlant de gars qui est très, très, très fort, allons rejoindre notre chroniqueur international, Louis Gauthier, qui est dans l'Ouest canadien. Salut, Louis!
Bonjour, Québec!
Salut!
Comment ça va? Ça va bien.
Mais là, je suis tombé en pas des nues parce que là, Pascal est en train de dire qu'elle est en train de donner le goût de ta discipline. Mais j'ai dit...
Pas de la discipline de Yannick. Non.
Non, non, parce que là, regarde, tu parles d'un gars qui va faire la tondeuse chez son ex, il n'est pas capable de faire chez eux à Val-Bé.
Ah non, mais j'essaie d'aider les abeilles comme je peux. Hein. Ils m'ont dit, hey, fais pas ta tondeuse au mois de mai. Mais non, mais je veux dire, chez nous, j'arrive chez nous, je regarde mon gazon, on dirait une soue à cochon. Là. Il y a des pissenlits partout. On n'est pas habitués. Nous autres, on est du monde propre.
Oui, monsieur.
Exact.
Bon, ben il y en a un qui, en tout cas, ça s'est nettoyé en Iran fin de semaine.
Ben, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, c'est sûr que Louis va vouloir nous parler mardi de ce dossier-là. Le président Ebrahim Raisi, qui est mort dans un écrasement d'hélicoptère. Première affaire auquel j'ai pensé, c'est, OK, sa mort va servir à qui? Est-ce que ça va servir à l'Occident? Est-ce que ça va servir aux ennemis de l'Iran? Mm-hmm. Puis après ça, ben, j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans le secteur. On parlait d'une météo qui était épouvantable pour des vols d'hélicoptères ou encore des vols d'avions. Puis ils ont pris quand même la chance de voler dans ces températures-là, puis il est décédé.
Mais écoute, il faut savoir que Téhéran se situe au nord-est du territoire iranien, près de la mer Caspienne. Et lorsqu'on regarde à partir de Téhéran jusqu'aux frontières de l'Azerbaïdjan, c'est montagneux. Ça ressemble un petit peu, là... On va se donner la région de Québec. Lorsqu'on va sur la côte nord, la basse côte nord, on longe le fleuve, c'est très montagneux.
Ouais.
Donc, on était dans ce coin-là, puis il revenait d'un voyage d'inauguration ou d'entente territoriale entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Et c'est des vieux hélicoptères américains qui datent des années 70. Il y était trois hélicoptères. Les deux qui accompagnaient, eux, ils ont réussi à se poser. Celui-là s'est écrasé. Et c'est quand même particulier parce que Ebrahim Raisi, si on pense aux expats iraniens, on salue son départ parce que disons que c'était le champion dans la démolition des droits de l'homme en Iran. Donc, pour répondre à ta question, à qui ça va servir? Est-ce que ça va servir aux Iraniens eux-mêmes en partant? Parce que dans la dernière semaine, il y a eu 11 exécutions, dont 7 femmes, dont une ou deux qui ont tué leur mari, puis ça, bien, ça n'a pas passé, c'est la pendaison. Et Ebrahim Raisi est quand même dans l'histoire comme étant reconnu comme le boucher de Téhéran. C'était la personne, selon le droit suprême, l'ayatollah, qui était nommée pour appliquer la loi musulmane, la charia, pour justement les exécutions. C'est lui qui avait tout amené dans l'histoire de l'Iran, les méthodes d'exécutoire, les lois, les enfants, les femmes, les hommes qui avaient le droit de battre leurs femmes et qui n'étaient pas pendus.
Lui avait été remis en place en 2021 avec des élections truquées. Est-ce qu'on peut penser que dans 50 jours...
Des élections qui n'ont pas eu de participation.
Exact. Est-ce qu'on peut penser que dans 50 jours, ça va être encore quelqu'un d'aussi pire que lui qui va être mis en place?
Mais là, on sait que c'est le vice-président Mohamed Mokhbar qui prend la relève jusqu'aux élections du 18 juin prochain. Est-ce que les Iraniens vont profiter de l'occasion pour remettre en place, je te dirais, un président qui était plus libéral, de centre, pour protéger, parce qu'on reproche beaucoup à l'Iran de ne pas protéger les droits de l'homme. Ce qu'il faut comprendre également, c'est un gouvernement ou un système de gouvernance à deux pattes. Tu as un gouvernement qui est plus républicain, donc diplomatique, où tu as des députés, pour ce que ça peut représenter les députés, mais tu as tout le temps l'autorité suprême, l'Ayatollah Khomeini, qui est là en place présentement, qui va toujours donner son dernier mot sur ce qui se fait. Maintenant, est-ce que l'Ayatollah va écouter ce que la population a besoin? Parce que, veut, veut pas, les droits de l'homme ont été vraiment pointés du doigt au cours des deux dernières semaines en Iran. Là, on a le président qui quitte. Puis, il y a quelque chose qui m'a surpris ce matin, parce que très tard hier soir, les Américains ont accepté d'apporter une aide de recherche sur les lieux de l'écrasement. Et je dois dire que les États-Unis et les Iraniens n'ont aucune relation diplomatique depuis 1979. Donc, qu'est-ce que ça vient dire? Est-ce que les Américains, qui sont en train de perdre, je te dirais, beaucoup de leur lustre, de leur bâton de pèlerin là, qu'ils avaient partout au Moyen-Orient, est en train d'être pas mal faillé, ce bâton-là? Est-ce que c'est une façon pour les Américains d'essayer de gagner un peu la faveur des Iraniens qui financent ce qui se passe au Hamas depuis le 7 octobre, qui ont aidé les Russes dans leur conflit sur le territoire ukrainien? La façon dont le djihad islamique qui est financé par les Iraniens font leur incursion au Niger, qui sont en train de sortir une base américaine au Niger au profit des Russes. Alors, est-ce que ça vient changer que les Américains ont décidé d'apporter cette aide-là dans le but d'essayer de calmer le jeu et d'essayer de reprendre leur position?
C'est vraiment fascinant parce que de l'autre côté, tu as aussi l'Irak puis l'Azerbaïdjan qui a proposé la même chose. Nous aussi, on va vous aider dans les recherches, mais on sait aussi le climat tendu qu'il y a eu entre l'Iran et l'Irak pendant de nombreuses années. Fait que là, tout le monde essaie d'aller voir un peu vers qui on va se tourner. Puis on sait que, admettons que tu as l'Iran, ça s'est passé en Iran, tu as l'Irak qui veut aller faire des recherches, les États-Unis qui proposent leur aide aussi. Mais récemment, en avril, il y a des troupes américaines qui ont été visées en Irak et ça répète dans cette portion du monde-là. Puis les alliances et les alliés sont à redéfinir, mais il y a des conflits qui persistent. Puis on apprend aussi que du côté de l'armée canadienne, il y aurait peut-être un redéploiement à travers les prochains mois du côté de l'Irak. Moi, il y a quelque chose de fascinant avec
bien,
le monde.
C'est parce que le Canada va participer là-dessus. Ils vont peut-être envoyer une troupe de 200 soldats juste pour dire qu'on participe à l'effort de guerre. Parce que présentement, le Canada, l'armée, il manque de personnel, il manque beaucoup de soldats. On va peut-être déplacer des troupes déjà en Europe vers cet endroit-là. Mais pour revenir à ce que tu dis, Pascal, ce qui est important à constater, c'est que pour une fois, on est assis dans les estrades, on regarde ce qui se passe concernant le nouveau positionnement géopolitique, puis on est en train d'enlever nos lunettes roses, enfin, pour regarder qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. Parce que c'est pas rien, là. On parle des troupes américaines qui se retirent de l'Irak, mais la base qui est en périphérie nord du territoire nigérien, qui s'appelle Agadez, depuis 2019, les Américains sont là. C'est une position où on pouvait avoir des patrouilles de drones dans ce coin-là. Puis là, les Nigériens, qui sont à majorité djihadistes, ont demandé aux Américains de se tasser. Puis dans une base voisine, il y a des Russes qui se sont installés là, il y a deux semaines. Alors, ça te donne une idée. Là, les Américains sont en train de perdre à peu près tout leur positionnement géopolitique au Moyen-Orient et même sur le continent africain. Avec ce qui se passe avec les Français, on voit ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais les Français ont beaucoup de colonies sur le territoire africain et on demande aux Français de se retirer également. Donc, on est en train de voir un positionnement géopolitique et c'est comme si le décès d'Ibrahim Raisi ne vient pas émettre une certaine lueur d'espoir pour venir faire baisser les tensions puis de se repositionner pour garder notre force de négociation sur le territoire du Moyen-Orient. C'est ce qui est très intéressant à suivre aujourd'hui.
Ce qui est weird aussi, c'est que, tu sais, l'Iran, c'est pas un pays qui est pauvre, là, c'est un pays qui est relativement très riche. Et de voir que l'hélicoptère présidentiel, il manquait plein d'équipements à l'intérieur de cet hélicoptère-là. Ils ont même pas été capables de le trouver avec leurs appareils. Ils ont pris un drone pour faire de la reconnaissance, pour voir s'il y a pas quelque chose qui se serait foiré dans ce secteur-là. C'est hallucinant quand on voit ça. Je veux dire, l'Iran, ça fait peur comme pays, là.
Bien, rappelez-vous de la guerre qui a duré 8 ans entre l'Irak et l'Iran. L'Iran avait beaucoup de soldats sur un très grand territoire, mais l'Irak avait toute la technologie. Et l'Iran, dans l'histoire, ça ne gagnera pas des prix d'excellence concernant sa sécurité aérienne. C'est des vieux équipements qu'on a, c'est des vieux mirages qu'on a comme jet, que ça reste cloué au sol, qu'on en prend trois pour en rafistoler un. C'est tout le temps ce qui se passe en Iran. Eux aiment leur positionnement au niveau de l'or noir. Ils sont 11e au rang mondial sur le pétrole, loin derrière le Venezuela, qui est un ami justement de ces pays-là. Puis, donc, ils se maintiennent. C'est un vieux régime, l'Iran. Donc, c'est à se demander, est-ce que le régime suprême de l'Ayatollah va tenter de ramener quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus ouvert, pas envers l'oppositionnement dans le monde, parce que l'Iran, de toute façon, vient appuyer à peu près tout ce qu'on voit de conflit avec l'argent, ce que j'ai parlé précédemment, mais au niveau des droits de l'homme à l'intérieur du pays, pour redonner une certaine fierté aux Iraniens, puis de retrouver une certaine puissance économique qu'ils ont perdue depuis 40 ans.
Dans l'autre dossier qu'on voulait aborder, toi et moi, Louis, c'est vraiment les mandats d'arrêt qui ont été donnés par le procureur de la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou puis des responsables du Hamas palestinien. Qu'en penses-tu?
Bien, c'est quand même particulier. Serions-nous sur le point de réunir les deux belligérants du conflit sur la bande de Gaza? C'est peut-être ça, sur la même bande des accusés. Mais écoute, c'est pas à prendre au sérieux. Mais te montrer à quel point c'est particulier, les Américains sont venus dénoncer ça en même temps que leurs alliés israéliens. Mais ce matin, la France reconnaît l'indépendance du CPI, donc du Tribunal pénal international, dans son indépendance pour essayer de mettre un terme à ce conflit. Alors là, on retrouve quand même des personnalités très imposantes au monde. Vladimir Poutine, qui est sous le coup d'un mandat justement du CPI. Là, on a Benjamin Netanyahou avec ses ministres et les responsables du Hamas. Puis il ne faudrait pas oublier également que George Bush, fils, a un mandat d'arrêt international du CPI également.
Ah oui?
Mais c'est protocolaire.
On l'avait oublié.
C'est protocolaire, mais s'ils ne sortent pas de leur pays, il ne peut rien se passer. Parce qu'on n'a pas une instance au-dessus de chacun des pays qui décide justement
le
pour
seul,
ce leader-là.
Le seul corps policier, Pascal, qui peut procéder à l'arrestation, ce sont des pays membres de l'Interpol.
Oui, mais ça,
donc,
s'ils
se retrouvent dans un pays, exemple, je ne sais pas moi, si Benjamin Netanyahou va se promener, exemple, en Belgique, Et le tribunal international demande aux Belges de procéder à son arrestation, puis ils vont envoyer des agents le chercher. Mais à tout le moins, le CPI, lui, a un mandat indépendant, donc il n'est pas membre de l'Interpol. Mais le seul corps policier, ce sont l'Association internationale des policiers, l'Interpol, qui peut procéder à des arrestations
sur
les territoires.
Mais il ne va pas aller se mettre à un endroit où il pourrait se faire arrêter. C'est ça qui est fascinant dans le... Tu sais, c'est un signal international de « on essaie de se rallier, mais bonne chance ». On aurait pu faire la même chose avec Vladimir Poutine à un moment, puis on sait que ça ne sert à rien. C'est beaucoup plus une image, c'est ça qui est triste.
Oui, c'est une image, c'est protocolaire, ça vient avec la saveur de la semaine. On sait qu'il y a des manifestations pro-palestiniennes partout dans le monde. On regarde les campus universitaires. Donc, le tribunal international vient émettre des mandats d'amener. Ça n'a aucune valeur. Ça avait beaucoup de valeur lors de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est quand même les procès les procès de l'histoire qui ont été dictés à cet endroit. Mais pour le reste, c'est très, très protocolaire. C'est pratiquement aussi emblématique que l'est l'ONU, puis l'ONU présentement.
Puis la suite, il n'y en aura pas, tout simplement. T'sais.
Non, il n'y en aura pas. C'est juste que c'est drôle parce que ces nouvelles-là sont arrivées en même temps que l'écrasement d'hélicoptères. Ouais. Tout arrive en même temps. Combien de temps ça va durer? On ne le sait pas. Est-ce que ça va venir? On prévoit encore peut-être une ou deux années du conflit sur la bande de Gaza, comme on prévoit encore une à deux années dans le conflit en Ukraine.
Mais moi, ce qui m'inquiète peut-être, admettons, sur lequel je porte mon attention pour la suite des choses, puis quand je consulte les médias européens, c'est là-dessus que je cherche des articles, parce que Benjamin Netanyahou a quand même qualifié cette annonce-là d'un mandat d'arrêt de la CPI de nouvel antisémitisme. Alors là, ça pourrait prendre des proportions religieuses puis faire en sorte de braquer des gens ou encore de rallier des gens derrière un mouvement anti-ralliement peut-être de valeurs un peu plus occidentales, puis c'est là où ça peut jouer encore une méchante problématique dans tout ce qu'on voit géopolitiquement dans le monde.
C'est le combat, c'est ce que Benjamin Netanyahou a dit hier, Pascal, c'est tout le temps la saveur que le peuple juif va sortir, c'est l'antisémitisme, autant que les Noirs de la francophonie africaine, que les Noirs américains vont soulever pour toute raison le racisme. C'est comme si on manquait d'arguments à un moment donné, plutôt que de parler du fond de l'histoire, qu'on veut mettre un terme à un certain conflit qui perdure puis qui nuit justement à la population en place.
Louis Gauthier, je te souhaite de passer une belle journée. Là, il est quelle heure chez vous?
Bien là, il est une heure de moins que chez vous. Il fait très, très chaud à Québec. Il annonce quoi du 25 avec ressenti 31? Nous, on va jouer dans le 20 aujourd'hui. C'est des températures qu'on a eues à peu près deux semaines.
Tu aurais dû rester ici, Louis. On a les mêmes températures qu'à Cancun. Il y en a qui payent pour être à Cancun.
Non, mais ce que j'ai fait, c'est que je suis venu ici pour vous pousser cette chaleur-là. Vous faisiez tellement pissier, vos pissenlits ne poussaient pas.
On nous annonce un maximum de 26 aujourd'hui. Avec l'humidex, ça pourrait être une température ressentie de 29.
Bon, bien, c'est parfait. Alors, je vous souhaite une belle journée, tout le monde, puis on va se voir très bientôt, là, je vous dirai, à la fin du mois de mai.
Salut, mon ami!
Salut!
Salut!
Bye!
L'excellent Louis Gauthier, chroniqueur international. Ouais, c'est ce que je jasais tantôt avec les amis ici, de voir qu'un hélicoptère présidentiel peut avoir des problèmes d'équipement de ce genre-là.
Tu peux pas te permettre ça.
Surtout la localisation. Imagine-toi, c'est du jour au lendemain, l'hélicoptère de Joe Biden, ou tiens, du président des États-Unis, se crashait au Canada, puis on sait pas, il est où. On sait à peu près il est où parce qu'il s'en allait, mettons, il partait de Vancouver, mais il s'en allait à Washington. Mais on sait pas il est où, à quel point on aurait de l'air fou, à quel point les Américains auraient de l'air fou. Bien, eux autres, c'était ça. L'hélicoptère s'est crashé, il n'y avait plus de nouvelles, mais il n'était pas capable de se connecter avec le système à l'intérieur de l'hélicoptère. Et à l'intérieur de l'hélicoptère, tu as la personne la plus importante du pays.
Mais ça se posait des questions par rapport à... Qu'est-ce qui était voulu derrière ça? Là?
Ben, moi, c'est, tu sais, on me dit
parce qu'on a le droit de se poser cette question-là.
Ben oui, on a le droit de se poser la question, mais tu sais, la météo n'était pas clémente. C'est pas le président qui décide s'il part ou pas, c'est le pilote. Là. C'est le pilote qui est commandant de son aéronef. S'il juge que la météo n'est pas clémente, il va dire au président, on part pas, tu sais. Mais là, ils sont partis pareil, se sont écrasés dans un endroit où on sait qu'il y avait énormément de vent, la température n'était pas adéquate, c'était brumeux, puis ils se sont crashés. On a beau dire que c'était un accident, mais tous les éléments font en sorte de se dire « crime ».
Peut-être que le pilote aurait pu dire « on attend un petit peu, on va partir demain matin ».
Mais il y a quelque chose qu'on oublie là, derrière ces genres de nouvelles-là qui arrivent dans l'actualité, c'est qu'on pense tout le temps que c'est loin de nous. On pense tout le temps que ça ne va pas aller nous affecter dans notre vie quotidienne en tant que petits Québécois de la ville de Québec qui ont des problèmes d'inflation. Puis je réduis rien de nos problèmes quotidiens. Ils sont beaucoup plus importants en ce moment que le reste. Mais tout ce qui est interrelié, tout ce dont on a jasé par rapport aux États-Unis, là, à l'Irak qui se dit qu'il était en guerre contre l'Iran pendant longtemps, qui dit « nous, on va venir vous aider les États-Unis. Nous aussi, on va venir vous aider, mais l'Irak et les États-Unis, ça fait vraiment pas partie d'une amitié. Il n'y a pas d'amitié là-dedans.
No.
C'est bien conflictuel encore sur le terrain aussi. Il y a des choses en ce moment qui se passent. On dirait que, je ne sais pas si c'est certaines personnes qui ont peur de s'intéresser à, mais il n'y a pas d'attention donnée à ça. Puis Justin Trudeau est bien décevant aussi dans sa participation à, parce que si tu regardes la relation États-Unis et Canada en ce moment, il y a Joe Biden qui se fout éperdument de la relation avec le Canada. Il y a des ententes qui ont coulé, puis il y a Justin Trudeau qui n'est pas capable de gérer des relations internationales. Puis avec les prochaines élections américaines, ça ne veut pas dire qu'on va être capable non plus de se réconcilier comme quand on était main dans la main Canada et États-Unis. Donc, on s'affaiblit, là. Foncièrement, on s'affaiblit. On n'est même plus vu comme un pays qui était pacifique. On est vu comme une médiocrité à peu près, là. T'sais, puis j'exagère un peu, mais malgré tout, côté relations internationales, toute l'armée aussi canadienne est en revue. Il nous manque des soldats, il nous manque du monde qualifié. C'est beaucoup d'agents qui sont polyvalents. On est extrêmement polyvalents dans notre armée, mais dans les spécialités, il en manque.
Ouais. Qu'est-ce qui va revenir? J'ai pas l'impression que ça pourrait peut-être revenir si jamais Trump gagne les élections présidentielles, si jamais Pierre Poilievre gagne les élections au Canada.
Mais c'est sûr que ça a toujours été plus conservateur, les valeurs de l'armée. Là, ça a toujours été un petit peu plus conservateur, puis c'est ces deux personnes qui sont là-dedans. Mais Trump, par contre, je ne suis pas convaincue parce que lui, il joue plus la game d'allié à l'international. Il va plus aller parler puis aller choisir ses alliés à l'international. Je pense qu'il va avoir des discussions avec Poilievre, mais ça, c'est essentiel. Mais est-ce qu'on va redevenir deux pays main dans la main là, pour les il va avoir beaucoup de travail à faire.
Qui vivra verra.
On n'est pas en train de se séparer.
418-971-101, 418-971-101. Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route s'il se passe quoi que ce soit. Merci de nous en informer. Si vous avez des choses à dire à Pascal, c'est le temps par texto. 418-971-101.
Pourquoi c'est plus
101.
Le temps là?
Parce que moi, je m'en cherche mon café. Tout le reste ici. Allez! Boulevard 102.1. Marceau le midi.